Voilà, j'espère que vous êtes bien recueillis de l'autre côté de du micro, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Canal Sud, si, si, Canal Sud 92.2, vous vous êtes pas trompés. Et on est le premier vendredi du mois, donc c'est le vernissage. Et ce morceau de musique a été choisi par l'exposant Philippe Masson, qui est actuellement à installer ses peintures dans les locaux de la radio Canal Sud pour tout le mois d'octobre. Sous le titre de l'exposition, c'est Amarcir, c'est ça?
Oui.
Alors d'abord, une petite explication sur cette musique planante que tu nous as proposée en introduction de l'entretien. Il s'agit...
Bah, il s'agit d'un morceau, je ne sais pas si c'est une fugue de Bach. Si ça intéresse des gens de l'avoir, c'est BWV 639.
Bon.
Qui était là, joué par Ton Koopman. Et...
Mais ça a été, tu dis que ça a été utilisé dans le film, c'est ça qui
m'intéresse. Oui, c'est le morceau qui a été utilisé par la personne qui a fait la musique du film Solaris de Tarkovsky. Et ouais, bon, moi c'est un truc, ça m'est resté depuis le film que j'ai vu un nombre incalculable de fois.
Et Solaris, on peut penser que c'est bien un film qui nous parle de science-fiction, d'autres planètes, mais tu trouvais, tu m'avais dit, là, l'intérêt, c'est que cette planète était un peu spéciale.
Ouais, Solaris. C'est une planète qui joue avec les émotions des gens qui l'approchent et qui recrée, par exemple, le héros de l'histoire. La planète recrée une compagne qu'il a eue et qui s'est suicidée. Et qui est en plus très très belle. Bon, c'est un truc. Et ça le met vraiment hors de lui. Quoi, mais bon.
Planète manipulatrice, nous dirons quand même. Non, parce que l'émotion, quand même, il faut s'en méfier. Toi, tu joues pas forcément avec les émotions. Justement, je vais revenir à ton exposition. Là, c'était juste pour nous expliquer, parce que sur le moment, moi, ce morceau, je le trouvais un peu religieux, donc c'est bien. Pourquoi on va atterrir, on va plutôt amarcir, justement,
ouais.
Puisqu'on va atterrir sur Mars. Alors, ça sera donc pas Solaris, mais c'est un peu le prétexte, je dirais un prétexte, hein, de titre de ton exposition, avec des références. Des références à Boris Vian, des références à Fritz Horn aussi, qui, alors lui, on le connaît parce qu'il avait fait un bouquin magnifique qui s'appelait Mars, et qui en fait était un règlement de compte sur la société bourgeoise, qui l'avait fait naître et qui le faisait crever aussi d'un cancer. Quoi. Et Boris Vian, lui, c'est parce qu'il a imaginé, hein, quelque part, qu'on pouvait aller sur Mars. Et donc, il a fait la Java martienne, c'est ça?
Oui, mais c'était un fanatique de science-fiction, Boris Vian.
Enfin, mis à part qu'il pense que le fils a 13 jambes et 2 coups. Bon, enfin, bon,
oui,
là,
oui.
Ça, c'est Vian. Et puis, dans Petit Spectacle aussi, où il parle aussi, comme si c'était normal, d'amarcir sur Mars avec une fusée dégueulasse, il parle, choses comme ça. Donc là, on est un peu dans la dérision, là.
Oui et non, enfin...
Tu joues toujours de tout ça parce que ta peinture, elle est, je dirais, muette sur ces sujets-là que tu nous proposes.
Ben,
toi, c'est des inspirations.
C'est gentil de dire que ma peinture est muette, ça me plaît
non,
bien.
Non.
Non, mais ça me plaît.
Ah oui,
je trouve que c'est un compliment, en fait.
Parce que c'est pas ça, c'est pour prévenir que si vous venez voir l'expo, vous verrez pas du Boris Vian, du Fritz Horn, du Solaris, etc.
Non.
Non. Par contre, toi, dis-nous comment tu as, on dira, à Canal Sud, c'est-à-dire à Canal Sud, avec ces idées-là.
Avec cette idée-là.
Planète de.
Non, l'idée d'amarcir, c'était à cause justement du rouge et du jaune de Mars. Hein. C'était vraiment parce que j'étais dans ces couleurs d'oxyde de fer et que au début. Au début, je jouais aussi avec d'autres composés d'oxyde de fer, comme on peut trouver les brins, les terres d'ombre, tout ça. Et en fait, j'avais jamais exploité ces couleurs comme étant des basiques, on peut dire.
C'était un surplus, en fait, c'était...
Non, c'était... J'avais toujours dans l'idée que les cadmiums, c'était un sommet, et que, il fallait absolument avoir ça dans la palette. Alors que, bon, enfin, moi, ça me pose tout un tas de questionnements, cette histoire de...
Ah, on va peut-être arriver à toi, Philippe Masson, comment tu t'es retrouvé avec une palette dans les mains, là? avec...
Oula.
Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a une palette et qui s'interroge sur les oxydes de fer, quand même.
Ah, bah déjà, les oxydes de fer. Ouais, avoir une palette et s'intéresser aux oxydes de fer. Je m'y suis intéressé à Paris parce que j'ai, en fait, pendant plusieurs années, je fabriquais des couleurs. Mais
t'as une formation Beaux-Arts?
Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Après, disons que j'étais un vilain petit canard quand même, puisque j'ai quand même suivi les cursus bien poliment. Et puis j'ai rencontré des gens, en particulier un prof qui était super, qui s'appelait Ferry Tiscon.
Et ces oxydes de fer, ça t'a été un peu inspiré par d'autres artistes? T'as d'autres références?
Non, je crois pas. Non, pas forcément. Y a plein d'autres artistes. Enfin, c'est marrant, il y a une personne qui a regardé mon travail il y a un an ou deux et qui m'a dit « Ah, ça fait penser à l'école de Paris ». Et je me suis dit « Mais bon, mais de toute façon, dans ce milieu-là, de tout temps, les gens rament. Et ce sont des couleurs qui sont les moins chères, parmi les moins chères qui existent. Et c'est ce paradoxe-là qui m'a plu là, dans ce travail-là. C'est le fait qu'on ait tendance à appeler un matériau riche un matériau cher. Mm-hmm. Et là, on est avec un matériau... Enfin, on est
alors,
sur...
Il faut être riche pour l'avoir, mais c'est
tout. On est sur justement l'idée de valeur,
ouais,
et la façon dont notre société assimile l'idée de valeur à la valeur commerciale.
Il y a une hiérarchie dans les couleurs, alors.
Oui, il y a une sorte de hiérarchie dans les couleurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comment dire, la richesse n'est pas une...
Non, mais la hiérarchie, je veux dire, il y a une hiérarchie institutionnelle de laquelle que tu as voulu un peu casser, c'est ça, je veux dire.
Disons que moi, je suis plus le nez dans le guidon, dans la peinture elle-même, donc Je le vis aussi. Enfin, je pèse mes choix par rapport à ce genre d'enjeu-là. Ouais.
Mais cette couleur, comme tu dis, ça t'a parlé à un moment donné. Tu t'es retrouvé inspiré, entre guillemets, si c'est pas un gros mot.
Ben, en fait, ce que je me suis dit, c'est que pendant des siècles, jusqu'au 18e siècle, tout ce qui nous reste de la peinture des classiques, elle est quasiment composée que de ces pigments minéraux, parce que les autres couleurs ont complètement disparu, ont passé. Et pourtant, quand
elles
on...
Disparu, tu veux dire, elles ont...
Si on regarde Fragonard, si on regarde...
Stables. Elles n'étaient pas stables.
Oui, si on regarde Frago, si on regarde Boucher, si on regarde Chardin, si on regarde même avant, tout ce qui nous reste, c'est des choses qui sont quand même puissantes et qui ont été faites avec ces couleurs-là. Donc ça veut dire que c'est pas la peine d'aller se prendre la tête en disant tiens ben voilà pour faire de la peinture il faut absolument que j'ai du truc du machin la nuance bidule et ce qui m'a frappé aussi c'est un recommencement. Moi j'ai quasiment pas fait de peinture, peut-être plutôt du dessin ou des choses à la marge pendant 20 ans là, et Ce qui a changé, c'est les marchands de couleurs. Les nuanciers des marchands de couleurs. Déjà, il y a l'Union européenne qui a éliminé tout un tas de couleurs parce qu'elles sont toxiques.
Ah, d'accord.
Donc, il y a eu... comment ça s'appelle un bleu, non, je me souviens plus. Bon. Mais ce qui s'est produit, c'est que finalement, on regarde dans la plupart des couleurs ordinaire, pour trouver des pigments minéraux de qualité, ben on est obligé soit de payer cher, et mais des fois, il y a des marques qui ne les ont pas, qui ne les ont plus en gamme. Par exemple, l'oxyde jaune, il y a plein de marques dans lesquelles on n'en trouve pas, parce que c'est très cicatif.
Ah oui.
Donc du coup, comme ça ne peut pas se conserver longtemps en tube, ils disent, allez hop, à dégager. Parce qu'il y a le profit qui est derrière. Enfin bon, c'est aussi un business, ça.
Tu nous introduis dans le monde qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. C'est souvent le monde souterrain de l'autre côté de l'acte de peindre, quoi.
Oui, ben oui, on est quand même, je ne sais pas, comme on disait, le médecin est une putain, son macro est le pharmacien. Mais là, de toute façon, le peintre, un peu, bon après, je ne vais pas faire utiliser de manière péjorative ce genre de truc, mais je veux dire, c'est qu'on est l'esclave aussi des gens qui nous fournissent les couleurs, d'une manière ou d'une autre.
Et que, comment toi, tu as eu cette envie de vouloir faire de la peinture, en fait de... Toi, tu résumes la peinture, enfin, tu résumes. Tu rentres dans la peinture par la couleur.
Ben, en fait, ça...
Parce que parfois, tu vois, si tu veux, la couleur peut être l'outil d'expression.
Ouais.
Mais comme un outil. On dirait que toi, c'est l'essentiel. Tu travailles la couleur. Voilà.
Ben, de plus en plus.
L'expo qu'on voit à Galerie du Sud... C'est vraiment des vagues. Alors, je dirais des vagues parce que tu as joué avec les nuances.
Mmh.
Et on est emporté par des couleurs. Alors, bien sûr, tu fais du travail non figuratif, bien que non figuratif, mais géométrique quand même. Il y a quand même...
La géométrie, c'est un peu un accident.
Un accident.
Plus ça va, plus en fait, la forme... c'est une période, quoi.
Est-ce que tu choisis tes formats,
enfin. Non, ce qui se passe, c'est que les choses qui me préoccupent depuis un certain temps, c'est d'avoir pendant un moment... Quand j'ai arrêté, au moment où j'ai arrêté, je venais du figuratif, du tout figuratif.
Du dessin, ce que tu as dit, ouais, c'est ça.
Du dessin et de la peinture figurative, des choses figuratives, quoi. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de déclic parce que j'étais pas dans les mêmes conditions de vie qu'auparavant. Et où je me suis dit, je finissais par avoir envie de me faire que plaisir là-dedans. Et le premier truc, ça a été d'aborder la couleur, mais j'avais quand même toujours ce marquage où j'étais en train de représenter des formes. Et encore récemment, j'étais en train de représenter des formes, jusqu'au moment où je me suis dit, mais bon... Finalement, c'est qu'est-ce qui définit les formes? C'est les qualités. Donc, plus ça va, plus je m'intéresse à la qualité et pas... on va voir.
Où ça m'en met, on va faire justement une pause musicale. Je sais pas laquelle c'est. Là, c'est qui est-ce qu'on aura? Parce que là aussi, tu aimes bien aussi casser les codes sur les écoutes musicales.
Je suis un fanat de musique. Quoi. J'en écoute de temps en temps, mais... J'aime beaucoup, beaucoup, Poujade, beaucoup ça.
L'histoire d'un artisan qui a réussi le petit commerce. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corseau, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons. On touche l'assurance et les allocations, ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence, crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant, je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde, canon en solde.
Boris Vian, presque ce côté antimilitariste, hein.
Ouais.
Et toujours un peu rebelle, quoi. Et c'est vrai que tu fais d'ailleurs allusion à Boris Vian. Alors, cette histoire de couleur, de Mars, de... Parce que là, on a bien fait ta trajectoire technique, en quelque sorte, de comment t'arrives. Et comment tu peux expliquer après ou donner un sens à ces tableaux, donc là, par rapport à cette histoire de Mars. Parce que c'est plus trop à la mode, en plus, Mars.
Mais en fait, je crois que...
Même les couleurs de Mars, je crois, elles ont évolué. On en avait trouvé d'autres.
Ah bon?
Ah oui, il me semble.
Je sais pas.
Ça avance là.
Parler de la couleur de la planète?
Eh bien, il me semble qu'on a trouvé des zones où il y aurait de l'eau ou du gel, où il y aurait d'autres, oui.
Ouais, je sais pas. J'ai lu des articles là-dessus sur les couleurs apparentes de Mars parce que.
Ça qu'on voit d'ici, quoi, oui.
Ils ont des problèmes. Au début, il y a eu des sondes qui ont photographié Mars. Et la difficulté pour les ingénieurs qui recevaient les données numériques, c'était de les retranscrire, étant donné que il n'y a pas la même source. Et je sais que c'est la couleur du ciel. La couleur du ciel de Mars, le ciel est jaune.
Voilà, c'est ça. Donc il modifie toutes les...
Et c'est... moi, je pense que les couleurs de Mars viennent de la planète Mars. C'est-à-dire du fait qu'elle soit rouge, qu'on puisse la regarder à la lunette. Et donc, au moment où elles ont été élaborées, c'est-à-dire probablement au début du XXe siècle, je pense. C'est assez récent. Parce qu'avant, il y avait les ocres naturelles. Il n'y en avait pas besoin. Eh bien, ils ont trouvé que ça ressemblait aux couleurs de la planète Mars, moi je trouve ça.
Et donc c'est l'opposition, nous, la planète bleue, n'est-ce pas?
Mais Mars c'est aussi une façon de se situer en dehors de la Terre, quoi, de prendre énormément de recul par rapport aux choses.
Et c'est ça que tu cherches un petit peu, toi, avoir du recul par rapport à plein de choses. Tu as mis sur ton site, je pense, c'est ça, des textes justement... à la fois soit la colère de Satie qui nous dit merde, soit là c'était Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, fallait chercher le texte là, histoire d'un dessinateur, comment on apprend à dessiner, et ça c'est intéressant, c'est par rapport au travail.
Rapport au plaisir dans le travail, au fait que à la conception à la fois scolaire et sociale. Capitaliste du travail.
On revient un peu à Fritz Zorn, qui dit
oui, que oui,
éducation bourgeoise lui a retiré tout, l'amour, la sexualité, sûrement le plaisir et tout, et qu'il en a...
Le problème, c'est pas Fritz Zorn, le problème, c'est que l'éducation bourgeoise, c'est celle qui diffuse à l'école. L'école de la République... véhicule les valeurs de la bourgeoisie et de la haute société.
Est-ce que la peinture, pour toi, c'est un moyen d'arriver à exprimer ce côté rebelle, ce côté...
C'est le contraire. Ouais, c'est le fait d'être confronté à la difficulté à peindre aujourd'hui, parce que ce qu'on demande, c'est pas de peindre, ce qu'on demande, c'est d'être un faire-valoir de cette haute société. C'est le problème de ces productions-là. Il faut faire allégeance. À la classe dominante, et pour moi c'est exactement l'inverse de ce que je crois être l'artiste, moi j'aime pas ce mot quoi, mais ce que je veux dire c'est
oui, au moins le travail artistique n'est pas pour conforter
On est sur des choses importantes là, il faut que je trouve mes mots parce que je suis fatigué, mais ce que je veux dire c'est que pour moi l'artiste c'est un individu comme les autres. Il n'y a pas d'artiste en fait dans l'absolu. Ce en quoi ça procède dans le développement de sa singularité. Et la singularité, c'est la chose la plus universelle et la plus partagée par tous les êtres humains. Et le problème de la société dans laquelle on vit, c'est qu'elle est construite autour de la norme et pas de la singularité. C'est-à-dire que l'agrégation, en particulier par le langage, fait que quand on dit par exemple un être humain, ben on n'exprime pas avec ces mots-là le fait que cette catégorie être humain n'existe pas en elle-même. Parce qu'on désigne par là des singularités, toutes différentes les unes des autres.
Oui, l'être humain n'existe pas, c'est une idée, un concept. Mais
voilà.
Il n'existe pas.
C'est un concept qui en lui-même est réducteur. Donc après, c'est très difficile de construire une société autrement. Si elle part de ce concept-là, c'est très difficile de la rendre non normative, de faire en sorte que la singularité soit au cœur de l'organisation sociale. C'est plus pratique et plus rapide de faire en sorte de dire bon ben voilà, ben on est tous pareils. Ben non, mais non, on n'est pas tous pareils.
Voilà, mais voilà. Moi j'ai réussi à toucher le fil de Philippe Masson, le Martien, qui expose dans les locaux de la radio Canal Sud, justement pour le non-être humain, et je trouve ça très très intéressant. Et donc je vous invite à venir voir, alors ce sont des petits formats, on va dire.
Ah ouais.
Mais étant donné la quantité, il y a une installation extraordinaire qui fait qu'on est plongé dans de la couleur. Et c'est donc du 5 au 31 octobre. Et je crois que tu tiendras des permanences pour les personnes qui veulent venir.
Ouais.
Mais vous pouvez vous renseigner. Alors de toute façon, vous allez sur Canal Sud à Marcir, l'expo, et je crois qu'il y a les renseignements. Sinon, tu as mis un téléphone. Le 06 51 89 50 42. Donc il sera de toute façon sur la vitre d'exposition.
Ouais.
On vous invite parce que le vernissage n'est pas terminé. Nous sommes vendredi 5 octobre et c'est le vernissage qui a lieu en présence de notre Martien Masson. Je plaisante. Et nous allons écouter une troisième sélection musicale, si le technicien est prêt. Tu te rappelles de ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as...
C'est Buffy Sainte-Marie, The Priest of the Golden Bowl. C'est... En fait, c'est une chanson qui date de 1992, ben dans laquelle elle décrit la société dans laquelle on vit, qui tourne tout autour de l'argent. Et il y a une phrase au milieu de cette chanson que je trouve très, très parlante, que j'adore, et qui dit « Power junkies all over the world tramp on us on their way to the bank ». Les junkies du pouvoir partout dans le monde marchent sur nous en allant à la banque.
Et bien voilà, merci beaucoup Philippe pour cet entretien et on vous invite à venir voir les travaux de Philippe Masson à la radio Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril et on écoute donc cette...
Brought the bomb wrapped up in business cards and stained with steak. Who hires a maid to wash his money? Who keeps politicians on the take? Who puts outspoken third worlders in jail just to shut them down? Oh, Oh, the lies vary from place to place, but the truth is still the same, even in this town. Money junkies all over the world trample us on their way to the bank. They run in every race. Indigo. Third worlders see it first. The dynamite, the dozers, the cancer, and the acid rains. The corporate caterpillars come into our backyards and turn the world to pocket change. Reservations are the nuclear front line. Uranium poisoning kills. We're starving in a handful of gluttons. We're drowning in their gravy spills. Their tongues are silver forks. There's a lack of wisdom. You can hear it on their breath. Windigo. Delicate confronting these priests of the golden bull. They preach from the pulpit of the bottom line. Their minds rustle with million-dollar bills. You say silver burns a hole in your pocket, gold burns a hole in your soul. Uranium burns a hole in forever. It just gets out of control. There was a crooked man who walked a crooked mile. He raised a crooked sixpence to hide a crooked style. He won a crooked vote, and he smiled a crooked smile. Windigo. Their tongues are silver forks. There's a lack of wisdom. You can hear it on their breath.